Na Clostina, ma Clostina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Anarchiste, communiste, sans bras de la révolution. Paysans, vous avez repris la terre, des métros, mais les affameurs. Mais par un traité Lénine, vous livrez aux armes des Allemandes. Mais par un pour que tous les prolétaires fraternisent sans entrave. Par la force vive de l'insurrection, tu repousses les armées blanches, mais tu refuses de voir ton ennemi à Moscou. Mais tu refuses de voir ton ennemi à Moscou. Isolement fatal, dans ton sang les bolcheviques sauvent l'état capitaliste. Pour de bon par-dessus les frontières, pour l'anarchie, pour le communisme, se rallumera le brasier qui consumera le vieux monde. Se rallumera le brasier qui consumera le vieux monde.
Les René Binamé sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait.
Avec la version la plus ignoble de Magnovtina que j'ai jamais entendue.
Ouais, pourquoi tu la mets d'abord?
C'est drôle.
D'accord. Donc, Voix de fait, c'est l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Cette semaine, une délégation réduite. Phébus au microphone et...
Farouco aux platines.
Alors voilà. De quoi on va vous parler cette semaine? On va pas juste vous mettre de la musique et vous écorcher les oreilles. On va aussi parler... cette semaine, c'était la semaine, mon Dieu, c'était la semaine de la question sociale dans la ville de Québec.
Ouais, j'avoue que ce n'est pas un titre varjeu.
Non, mais 4 manifestations en 3 jours, faut le faire. Ça arrive pas souvent. C'est ça, on va faire un retour là-dessus, que ce soit le Front commun des personnes à cité sociale, le regroupement des comités logements et associations locataires, ou les syndiqués de la ville de Québec. Tout ce beau monde est dans la rue. Quand même, ouais, ils ont jeté leurs gants dans l'entrée de l'hôtel de ville.
École blanc ont des gants.
C'était leur mitaine, mettons. Et donc, c'est ça, on va parler de ça. Sinon, il y a aussi une entrevue avec le politologue Francis Dupidéry en deuxième partie d'émission sur le bouquin Québec en mouvement, qui vient de sortir il y a 3 mois dans les librairies.
Une primaire. Québec.
Oui, une primaire de Voix de fait. Et on fera un bref détour international, entre autres pour parler du G20. Après ça, ça va être pas mal tout, je pense.
Ouais, on va continuer avec les amis de ta femme, avec la Java des caniveaux, pour introduire le reportage qui s'en vient tout de suite.
Ouais, c'est ça, pour introduire le Front commun des personnalités sociales, je trouvais que c'était
ça allait l'être,
de rigueur.
Ah oui.
Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. cette histoire c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour le grand patron m'a dit, vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot, une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital. Le nécessaire avant l'envie, ma vie est devenue la survie. Ma maison c'est un carton, d'emballage Ikea. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai faim marqué sur un panneau, j'ai fait le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure, plus voir les gens mais leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse, de devoir faire le petit numéro. Du messieurs dame, je m'excuse, une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour, d'aller crever au pied des tours. L'œil ébloui par la lumière, des grands fabricants de misère. Les belles multinationales, qui font des pauvres et des maudits. Des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro, vous n'en verrez pas la couleur. Ce seront les mêmes quand on rentre où, messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure que vivent les nouveaux clodos. Car dans la rue, la vie est dure, la rue ça fait pas de cadeaux. Assis sur le banc de souche, non, vous n'aurez pas le choix. On vous mènera de force à la douche, et que vous soyez sale ou pas. Pour conserver une bonne apparence, vous vous raserez tous les matins. Et les jours de grande affamance, vous volerez les grands magasins. Un feu rouge pour 10 francs, à des gens tous indifférents. Frélondeur du lampadaire, l'hebdomadaire de la galère. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Oui mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera. Les pauvres on se réunira, voilà ce qui arrivera en ayant marre. Les trucs cocus, nous les exclus de la galette. On viendra prendre notre dû cette fois, c'est vous pour les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution. Des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous foutre un beau chahut. Et on ira pique-niquer sur les pelouses de l'Elysée. Et ce jour-là, planqué d'artiche, il fera pas bon d'être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombe un bel sur vous.
Ça coupe raide, ça.
Oui, ça comprend ça. Donc, vous êtes toujours à Voix de fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. C'est la semaine de la question sociale, ma foi, si on se fie à ce qui se passe dans notre joyeuse ville. Vous voyez, dans le désordre chronologique, mercredi le 19 novembre 2008, en marge de son Assemblée générale, il y a des militants et des militantes du Front commun des personnes à cité sociale de Québec, 60 peut-être 75, là, qui sont allés manifester devant le Parlement, en fait, pour marteler que la lutte à la pauvreté doit devenir un enjeu majeur de la campagne électorale, parce que bon, on le sait, là, depuis le début de la campagne, on parle beaucoup d'économie, de crise financière, mais on oublie complètement là, les centaines de milliers de personnes au Québec qui vivent sur l'aide sociale, donc dans la fin, le désespoir. Puis ces personnes-là sont privées de leur droit à un revenu décent, puis le Front commun des personnes à cité sociale demande aux futurs élus d'en faire leur priorité absolue. En fait, ils sont arrivés avec une série de revendications, 3 mesures urgentes. Il y en aurait vraiment beaucoup de mesures urgentes à faire, mais ils ont décidé de faire le ménage, puis d'aller en chercher au moins 3.
Il faut pas faire ça trop compliqué pour les politiciens.
Non, c'est ça, ils ont demandé au moins 3 choses qui sont mais vraiment de base. Là, pour pas être d'accord avec ça, faut être soit un gestionnaire, soit vouloir se faire du, ouais, c'est ça, un X, vouloir se faire du capital sur le dos des personnes à cité sociale. Donc la première chose, c'est d'inscrire dans la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, donc d'inscrire la pleine indexation des prestations d'aide sociale. Là, le gouvernement vient d'annoncer que à partir du 1er janvier, le 1er janvier en fait, pour la première fois depuis qu'ils sont au pouvoir, les prestations d'aide sociale des personnes dites aptes au travail seraient pleinement indexées au coût de la vie.
Ouais, mais ça peut pas être renversé par une élection.
Non, c'est des décisions, enfin, faudrait vraiment être mal pris pour que ce soit renversé. C'est une décision là, qui est passée dans le journal.
Faudrait un foutu rebond pour leur DQ.
Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont décidé donc de faire ça, mais ils veulent pas l'inscrire dans la loi. Et on sait que depuis que les libéraux sont élus, l'indexation, mais en fait, c'est une demi-indexation. C'est un peu comme pour les retraités de l'État.
Sauf c'est que mieux bon, que les péquistes.
Oui, c'est mieux que les péquistes. Pendant 5 ans sous Lucien Bouchard et Bernard Landry, il y a eu un gel complet des prestations d'aide sociale. Mais, en fait, le Front commun des personnes à cité sociale dit, bon, c'est beau, c'est un geste, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, ce qu'ils demandent, c'est que les montants qui auraient dû être, qui ont subi la demi-indexation, donc les montants qui auraient dû être donnés aux personnes à cité sociale depuis janvier 2005, soient remboursés. Ils veulent une rétro pour ce mois de janvier. Et on parle vraiment de sommes ridicules, là. C'est une histoire de 15-20$ par mois pour les personnes. Mais ça fait toute la différence. En fait, c'est une somme ridicule pour l'État. Et ça fait toute la différence dans la vie des personnes qui se retrouvent avec des chèques de 500$ à peu près par mois. Donc, c'est vraiment pas grand chose.
Ensuite c'est même de pas ça. Loyer.
Non, c'est ça. Ensuite de ça, le Front commun des personnes à cité sociale demande que les politiciens s'engagent à mettre fin immédiatement au détournement par l'État des pensions alimentaires versées au bénéfice des enfants. Parce qu'actuellement, si une mère de famille monoparentale reçoit une pension alimentaire pour ses enfants qui est à l'aide sociale...
Mais c'est compté dans ses revenus.
C'est compté dans ses revenus et donc c'est coupé.
Ah oui.
Le premier 100$, ça va, mais le reste est coupé. Or, légalement, la pension n'est pas versée à la femme, mais versée aux enfants. Et comme le soulignait une participante, une femme qui était mobilisée à cette occasion, les enfants, bon, ils n'ont pas choisi de venir au monde, puis ils n'ont pas choisi non plus de venir au monde dans une famille pauvre, puis c'est pas à eux d'assumer. Fait que dans les faits, en fait, c'est les enfants qui font vivre leurs parents, et c'est particulièrement rageant dans la mesure où il y a des lois très 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 coercitives pour forcer le paiement des dites pensions, mais elles finissent dans les coffres de l'État, ce qui n'a pas de sens du tout.
Tu veux dire que quand la femme a réussi à faire payer le bonhomme, l'État ramasse le cash.
C'est ça.
Et c'est malade.
Et l'État, en fait, prend les mesures nécessaires pour que le bonhomme paye. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, mais tu sais, c'est un principe qui est correct, là, de
dire. Ça arrive quand même souvent que les gars, ils s'en sortent, là.
Ouais, mais maintenant, ils ont rajouté des dents à la loi là-dessus, puis c'est de plus en plus compliqué à partir du moment où est-ce qu'il y a effectivement une ordonnance de paiement de pension alimentaire, là, s'en tirer, c'est pas évident. Sauf que bon, c'est des principes qui sont corrects, mais ce qui est pas correct, c'est que dans le cas des prestataires d'aide sociale, on coupe, parce que ça a pas de bon sens, là, je veux dire, c'est effectivement... Puis le ministère coupe sous principe que, bon, ça créerait deux poids, deux mesures, puis deux classes d'enfants à l'aide sociale, ce qui est tout à fait vrai par ailleurs, mais c'est pas une raison non plus pour... tu sais, c'est comme s'il y en a qui ont droit à ça, mais qui l'aient. Et finalement, la dernière revendication, ça risque d'être un peu plus compliqué à faire adopter, mais ça me semble quand même la base. Ils veulent qu'on abolisse les catégories, en fait, la discrimination entre les personnes dites aptes au travail et celles qui sont dites inaptes. En fait, ils veulent abolir la distinction, non pas dans l'ensemble des mesures, mais au niveau du chèque. Entre ceux qui ont le gros chèque et ceux qui ont le petit chèque. Parce qu'actuellement, à la loi de l'aide sociale, les personnes inaptes au travail, donc qui ont des contraintes sévères à l'emploi, c'est-à-dire qui sont finalement pas capables de travailler et que c'est prouvé médicalement, donc reçoivent un chèque qui est sensiblement plus élevé parce que le chèque est basé sur le panier de services, c'est-à-dire sur ce que l'État considère comme le strict minimum vital. Et c'est beaucoup plus que ce qu'il donne aux autres personnes à cité sociale, parce que celles qui sont aptes au travail, pour éviter de faire du désincitatif au travail, on leur verse mais vraiment une pitance minimale qui, d'après les chiffres même de l'État, ne devrait pas permettre à la personne de survivre sans avoir recours aux banques alimentaires et à tout plein de...
Ou au travail au noir.
au travail au noir. Il y a tout plein de choses. Ce que le Fonds commun dit, c'est, ben, si vous considérez que le minimum, ça prend 850$ par mois, ben, donnez 850$ à tout le monde. 850 ou 900, je me souviens plus combien c'est rendu, c'est autour
900,
de ça.
900, c'est quelqu'un inapte au travail qui reçoit ça présentement.
Oui, oui, c'est ça. Mais d'hésiter, c'est comme si c'est ça que vous considérez que ça prend, ben, donnez-le à tout le monde. Puis, tu sais, c'est comme, c'est pas de notre faute, on choisit pas de se retrouver dans cette situation-là. Et donc voilà, ils ont demandé ça aux politiciens. Ceci dit, le Front commun s'entend, là, on s'entend, ils disent que c'est pas la mer à boire, là, c'est vraiment trois mesures urgentes. Ils ont une plateforme vraiment plus plus mais élaborée là, sur l'ensemble de leurs revendications et tout. Mais bon, c'est là où la principale organisation, parce que c'est un mouvement qui est très divisé, mais la principale organisation, et dans la région de Québec, c'est à toute fin pratique la seule organisation de personnes à citer ça, c'est là où est-ce qu'elle en est. Sinon, on a un deuxième reportage qu'on va pour une deuxième manifestation qu'on va passer à l'instant.
Vous avez un premier reportage pour une deuxième manifestation.
Ouais, mais ça, c'était le premier.
Ah, mais là, c'est un reportage enregistré.
Oui, d'accord. On a fait des radios canadiens de nous.
On est capable. Ouais, bonne écoute.
Mardi, le 18 novembre, avait lieu à Québec une manifestation nationale du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec pour le contrôle des loyers et un registre des baux. J'étais présent et voici ce que j'en ai ramené.
Alors, Nicole Dionne du Bureau d'animation et information logement à Québec.
Et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui?
Ben, aujourd'hui, c'est qu'on veut interroger les grands partis qui sont en campagne électorale actuellement sur est-ce qu'on aura vraiment un contrôle des loyers au Québec. Actuellement, les locataires s'appauvrissent constamment. Les hausses de loyers sont nettement abusives. On parle de plus de 20 à 27 d'augmentation dans les 7 ou 8 dernières années. Alors évidemment, vous comprendrez que les locataires n'ont pas eu des augmentations de revenus de cet ordre-là. Donc évidemment, l'équation est simple. Les locataires s'appauvrissent au Québec.
Là, vous venez de scouper le ministère des Affaires municipales à Place Diouville?
Oui, effectivement. Donc, on voulait effectivement questionner le ministère des Affaires municipales sur cette question-là. Évidemment, ça relève de son ministère, cette décision-là. Pour le moment, on nous a écoutés, mais on nous a pas entendus. Donc, on espère que cette manifestation, encore une fois, pourra, aiguiser leur sensibilité sur l'appauvrissement des Québécois et des Québécoises.
Et prochaines étapes pour le contrôle des loyers?
Ben, les prochaines étapes pour le contrôle des loyers, évidemment, ça va de rencontrer de façon plus individuelle les représentants des différents partis. Mais on va continuer à lutter, on va continuer à mobiliser la population sur un réel contrôle des loyers. On invite les locataires, bien sûr, à contester massivement leur augmentation de loyer si elles les jugent abusives. Donc, c'est notre seule façon, pour le moment, d'essayer de faire semblant qu'il y a un contrôle des loyers au Québec.
Merci.
Au revoir.
Manifestation terminée? Oh que non! À peine une heure plus tard, une poignée de résistants de Québec se présentait à l'hôtel Le Concorde pour accueillir bruyamment Mario Dumont, le chef de l'Action démocratique du Québec. On peut dire que ça aurait été une journée agitée.
Mario, Mario, ça va aller à
la logique du marché est de plus en plus de mal logée.
Ouais, donc c'était, j'avais sensiblement la même chose pour le Front commun des personnes à cité sociale, mais j'ai jamais eu le temps de le monter, alors j'ai abandonné.
Shame.
Ben, c'est les risques du métier et du militantisme. Des fois, il faut travailler aussi, ce qui veut dire qu'on n'a pas nécessairement le temps de tout faire ce qu'on voudrait pour notre émission de radio. Oui, ben oui, c'est ça. Autre dossier social à Québec. Cela, par contre, il passe difficilement inaperçu. Là, ça fait la une des journaux. La mère, la bombe et ses syndicats, la hache de guerre et la hache de guerre.
Le maire, la bombe.
Et ses syndicats.
Déterre la hache de guerre avec ses syndicats.
Non. Le maire, la bombe et ses syndicats, la hache de guerre est déterrée.
Aïe, c'est poétique.
C'est poétique. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Les syndiqués ont jeté les gants lundi dernier.
C'est-tu une image pour faire allusion au hockey, ça?
Je pense que oui.
Ils veulent se battre.
Ils veulent se battre.
Aïe, je vais être embauché à vie.
Ils ont jeté les gants. Lundi dernier, donc, au conseil de ville, il y a bon, des petites délégations de tous les syndicats et une très grosse délégation d'écoles blancs qui sont allés porter des mitaines, sont allés jeter leurs mitaines, en fait, dans le hall d'entrée.
Il fait-tu désarmer?
Dans le hall d'entrée. Puis c'est quand même quelque chose là qui se déroule. Là, on voit ça, là, c'est maintenant, ce matin, là, pardon, mercredi matin, dans le soleil, c'est étalé sur deux pages. Mais il y a des éléments qui nous manque pour bien juger de tout ça. Puis moi, ben, je suis allé faire ma petite enquête là, du côté là, des syndicats de la ville. Et,
un parti pris.
Oui, pour aller chercher l'envers de la médaille. Donc, on entend beaucoup, beaucoup le maire et ses alliés pérorer dans les médias à propos des négociations avec les employés syndiqués. Puis on entend un peu moins là, l'envers de la médaille. Puis franchement, c'est pas rose. Je suis allé juste chercher des trucs là, du côté des cols bleus. Alors, le syndicat des cols bleus, ça, c'est 1500 personnes à peu près. Eux autres sont furieux parce que, malgré ce que dit la ville, ils n'ont jamais quitté la table de négociation. Il y a même eu une rencontre le 17 novembre.
C'est la table qui les a quittés.
Même pas. Ils sont jamais partis.
Non, mais je veux dire, c'est la partie patronale.
Oui, c'est
qui...
ça. C'est ça.
Ils ont retiré la table.
En fait, la ville retarde les négociations. Comment ça? Parce qu'il refuse de justifier ses demandes de concession par écrit. OK? Ça a l'air niaiseux de même, là.
Mais ils pourraient le mettre sur leur site, là, tu sais, la vérité ou je sais pas trop quoi.
Ouais. Denis Plante, conseiller au SFPQ, il dit... SFPQ, c'est le fonctionnaire provincial. Donc, il dit, on est bien prêts à s'asseoir avec eux demain matin, mais on veut travailler sérieusement. C'est impossible s'ils justifient pas leurs demandes à partir de faits établis, de preuves, d'une quelconque démonstration. Si on veut trouver des solutions, il faut comprendre les problèmes. Pour l'instant, on nage dans le flou et les prix jugé.
Et, ouais, il croit pas au Régis.
Non, il croit pas au Régis. Puis en ce qui concerne le régime de retraite, la situation est exceptionnelle. La Ville de Québec est la seule municipalité reconstituée qui a toujours pas déposé le texte final de l'entente sur la fusion des régimes de retraite qui a été réalisée en 2004. Ce qui fait dire aux syndiqués, ils n'ont pas fait leur travail, on attend encore, puis ils voudraient qu'on accepte toutes leurs suppositions. Est-ce qu'on peut négocier de façon sensée et professionnelle pour une fois avec des textes, avec des chiffres? En ce moment, la ville ralentit les pourparlers en ne fournissant pas les documents essentiels et le maire, par ses sorties publiques, joue au provocateur. Ça, c'est le conseiller syndical qui dit ça. Et on souligne aussi, par ailleurs, que le maire répète sur toutes les tribunes que les employés manuels gagnent beaucoup trop cher. Ah, il y a certains employés du syndicat qui sont sous-payés. C'est une prétention. En fait, la prétention qu'ils sont payés trop cher, c'est contesté par le syndicat de la fonction publique, syndicat canadien de la fonction publique, qui syndique l'école bleue, qui souligne que la ville a de très graves problèmes de recrutement pour plusieurs corps de métier. En fait, c'est pas compliqué. Les électriciens, les plombiers, les cimentiers appliqueurs, les mécaniciens puis les soudeurs, par exemple, n'ont pas intérêt à travailler à la Ville de Québec.
Non, personnellement, pour avoir travaillé à la Ville de Montréal un bout, là, comme étudiant, je parlais au... mécanicien, puis c'est tout des vieux de la vieille, des super calés. En fait, ils vont à la ville pour la retraite après avoir fait de l'argent dans le privé.
C'est ça. Ben, c'est ça qu'il dit le délégué syndical. Il dit pourquoi? Il dit parce que les conditions de travail offertes sont en dessous de ce qu'on retrouve sur le marché privé dans le secteur de l'habitation. La ville n'est pas compétitive pour attirer des ouvriers qualifiés. La plupart préfèrent travailler dans construction ou dans mécanique automobile où ils vont mieux gagner leur vie. Donc, l'argumentation du maire Labeaume ne tient pas la route par rapport au fait qu'on les paye trop.
Puis, tu sais, les gars, ils allaient à la ville pour la retraite, mais c'était même pas pour le fonds de pension, c'était pour les assurances qui suivent, là. Ouais. C'est vraiment juste au cas où, là. Ils se disaient, on va essayer de se donner une belle fin de carrière.
Ouais, parce qu'on s'entend qu'actuellement, avec 4% de taux de chômage, un ouvrier qualifié paye 40 000 piastres par année. En tout cas, c'est pas super compétitif. Peut-être que je suis fou, mais il me semble que la moindre des choses, quand on demande aux employés, des employés, n'importe quel groupe d'employés, de couper dans ses avantages, c'est de leur expliquer pourquoi, puis de voir avec eux autres toutes les alternatives possibles. Une négociation, normalement, ça doit être au moins un peu rationnel, puis c'est pas ça à quoi on assiste. En fait, ce qu'on a, c'est un gros show de boucan qui sert essentiellement à augmenter le rapport de force du patron pour lui permettre d'écraser sans avoir à convaincre. S'il continue comme ça, le maire va finir par faire sortir de terre des syndicats combatifs là où il n'y en avait pas. Non, mais c'est vrai! La preuve! Pour la première fois en 25 ans, le syndicat des cols bleus de la ville de Québec va demander un mandat de grève à ses membres.
Oh, c'est pas le
la 301. Dernière grève, ça a été en 1983.
Hey, c'est pas le 301, c'est vrai.
Non, vraiment pas. Eux, ils sont fiers d'avoir toujours été conciliants, d'avoir toujours réussi à s'entendre avec les élus municipaux.
D'être aujourd'hui sous-payés.
Puis d'être aujourd'hui sous-payés. Et en fait, il y a une fois en 1990, parce qu'ils ont failli tomber en grève avec l'Allier. Mais ils avaient évité ça. Et là, ben là, ils sont fâchés. Fait que d'une part, ils vont avoir une assemblée syndicale où est-ce qu'ils vont demander un mandat de grève. Les autres, ils n'y pas avec le POC, parce que là, les autres, ils font des moyens de pression puis tout. Puis là, les clubs bleus, ils ont dit, ben là, nous autres, on veut bien signer, mais on va aller chercher un mandat de grève. Et ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'ils viennent de déposer une plainte de négociation de mauvaise foi, parce que, imaginez-vous donc, au Québec, il y a des lois.
Ah, bien sûr.
Oui.
Mais ça ne s'applique pas juste contre la classe ouvrière.
Non, mais il y a une chose qui s'appelle le Code du travail.
Mais c'est ça.
Et le Code du travail.
C'est juste contre les ouvriers.
Il y a deux dispositions qui sont quand même assez importantes, qu'on a tendance à l'oublier. La première, c'est qu'il faut négocier de bonne foi. Et la deuxième, c'est qu'il faut négocier avec le représentant accrédité des travailleurs. Et eux, ils disent, la bombe, c'est pas ça qu'il fait. Du camp qui nous donne un ultimatum. Il faut réussir à s'entendre avant le 1er décembre, sinon je retire mes offres. Et c'est de la négociation de mauvaise foi. Quand il dit « faut que vous reveniez à la table de négociation », c'est de la négociation de mauvaise foi. Un, on l'a jamais quitté. Et deux, c'est illégal de créer soi-même, sciemment, une impasse dans une négociation. Et en donnant un ultimatum, tu crées une impasse.
Ouais, mais Régis, il va dire ah, là, excusez, c'est mon premier mandat. Je savais même pas que les brigadiers et les brigadières étaient payés. Comment?
Et deuxièmement, ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Hein. Les brigadiers et les brigadières, ils viennent de déclarer au soleil. Ils disent nous, on est bien pour retourner à la table de négociation. Ils nous sont pas encore invités.
Ben, ils savaient même pas qu'ils étaient salariés.
Fait que donc, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'ils disent qu'en s'adressant aux médias, puis en lançant un ultimatum par-dessus la tête du syndicat, en fait, c'est qu'ils nient l'existence du syndicat et qu'ils doivent passer par les syndicats pour. Et... faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Il ne faut pas s'adresser directement aux employés.
Ouais, Régis
comme
travaille
patron.
Comme Walmart.
Oui,
il je suis sûr qu'il désigne le syndicat comme tierce partie.
Oui, peut-être, je ne sais pas. Et donc c'est ça, le syndicat vient de déposer une requête à la commission des relations de travail pour ordonner à la Ville de Québec de maintenir après le 1er décembre l'offre salariale qui a été déposée en juin 2007. Puis en fait, ce qu'ils veulent là, c'est... Ils veulent une négociation réelle. Puis là, Régent Rochette, là, le vice-président du syndicat, il dit dans son fameux ultimatum lancé à tous les travailleurs syndiqués, le maire Labeaume nous demande de reprendre les négociations alors que nous sommes toujours à la table. Déjà, on remarque qu'il comprend mal ce qui se passe. Puis il dit de plus, la partie syndicale dénonce l'absence des documents, comme je disais tantôt, qui justifie les demandes de la ville. Et là, on revient à la charge en disant, ça fait des mois que nous demandons des statistiques, des chiffres, des dossiers concernant les absences pour maladie, le régime de retraite, les assurances, etc. Ce refus de la ville ralentit tout le processus. S'il y a de réels problèmes, des choses démontrées, pas du vent, on est prêt à regarder ça froidement. Mais il faut des faits, pas des préjugés. Alors voilà, malheureusement, c'est évident que dans le contexte actuel, avec les radios qu'on a, avec... bon, il y a Sequoia, il y a CKRL, il y a Chiz... Mais on s'entend que c'est pas nécessairement elles qui ont le plus de poids lors des...
Mais c'est les plus belles.
C'est les plus belles. Et étant donné les médias qu'on a, c'est évident que les syndicats s'en tireront pas aussi simplement que ça, mais il y a quand même quelque chose là, puis il faut voir vraiment là tout l'aspect propagandiste de la chose. Sur ce, on va se quitter joyeusement pour aller en musique,
ouais,
et au retour...
Juste une petite affaire, ouais. Là c'est au municipal.
C'est au municipal.
Après le discours du trône qu'on vient d'avoir, ça va être au fédéral bientôt.
Ah ouais, au fédéral, mais déjà, là, il va y avoir une grève au poste.
Ouais, ben, elle a commencé.
Ouais, mais c'est ça.
En tout cas, les élections se suivent, les grèves aussi.
Oui, c'est ça. Donc, on va s'en aller avec Tekenja Fakoly, puis on revient avec une entrevue réalisée mercredi après-midi avec Francis Dupuy-Derry, politologue à l'Université du Québec à Montréal.
Ils ont oublié. Moi, moi, là, qui est indien. Ou mon sicana, moi, qui est indien. Moi, moi, là, qui est indien. Il gagne à mon air. Il gagne à mon air. Il gagne à mon air. Massacre l'intérêt de tout le yamba. Il gagne à mon air. L'on j'en j'en suis vérité. Il gagne à mon air.
Sortait un des rares livres sérieux qui traite des mouvements sociaux et de la scène militante au Québec, après plusieurs bouquins sur de gauche, en fait, qui sont en fait des bouquins sur Québec solidaire. En voilà un sur l'autre gauche, la gauche de la rue. Et puis on a avec nous le chef d'orchestre de cette parution, le politologue Francis Dupidéry. Bonjour. Donc, Québec en mouvement, qui est publié chez Lux, c'est un ouvrage collectif qui réunit une panoplie d'universitaires militants ou de militants universitaires selon le point de vue, qui couvre l'ensemble, un spectre très large de mouvements sociaux allant du mouvement des femmes au mouvement altermondialiste en passant par le mouvement syndical et toute une panoplie d'autres sujets. C'est pas banal, en fait, c'est même plutôt rare. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la genèse de ce livre-là?
Oui, ben en fait, l'idée est venue en 2006. Quand on a réalisé que ça allait faire maintenant cinq ans, qu'on célébrait le cinquième anniversaire du Sommet des Amériques, faire un peu le point, le bilan, qu'est-ce qui en était resté, qu'est-ce que ça avait signifié. Et puis, du point de vue de, à Québec, peut-être c'est moins évident parce que vous l'avez vécu dans votre chair. Du point de vue de l'université, ce qu'on réalise en tant que prof, c'est qu'en fait, les générations passent très vite. Et donc, pendant une ou deux années, je faisais des sondages dans mes classes pour savoir combien de personnes avaient été au Sommet des Amériques. C'était la grande majorité. Puis tout à coup, évidemment, c'était plus personne parce qu'ils étaient trop jeunes.
D'accord.
Le point. Puis là, deux ans plus tard, en fait, j'ai conçu une équipe, en fait, de volontaires pour écrire des textes sur les différents mouvements. Évidemment, il n'y a pas tous les mouvements qui nous intéressaient. C'était une œuvre impossible, disons, à faire de façon complète. Mais c'était un peu le point de départ.
Donc, moi, j'ai été un peu surpris quand j'ai vu, bon, l'optique, en fait, le quatrième de couverture et tout, est-ce qu'on présente... le livre est présenté dans une perspective très optimiste sur une montée des luttes, alors que quand c'est sorti, ce que je voyais plutôt autour de moi dans les mouvements sociaux, c'était plus sur la baisse des luttes, la montée de la droite. Comment t'expliques cet optimisme-là? Est-ce que c'est juste un décalage au niveau du moment de publication ou...
Je pense que c'est un optimisme chez les gens de luxe qui ont fait le quatrième de couverture. Non, c'est... Il y a une tension, c'est sûr que le livre, je le précise parce que c'est important, porte sur les mouvements sociaux progressistes, donc gauche.
Oui.
Nous, il y avait un certain optimisme quand même, mais un optimisme disons dans la moyenne durée, plusieurs années. Mais je signe la conclusion là, de quelques pages et en fait, j'avoue que ça finit un peu sur, il n'y a pas de happy end. Puis effectivement, à la fin du livre, c'est une fois qu'on a parlé de tous ces mouvements envers lesquels je suis évidemment sympathique, vers de gris, il faut quand même constater que ceux qui ont le haut du pavé aujourd'hui au Québec, c'est les forces de droite. Même en fait, même des mouvements sociaux de droite comme le mouvement masculiniste ou à Québec ont rapidement, par exemple, l'immobilisation pour sauver la radio Choix.
Oui, oui.
C'est quand même 40-50 000 personnes qui sont descendues dans les rues à ce moment-là.
Et donc, l'optimisme et le fait de l'éditeur.
Un optimisme relatif.
Un optimisme relatif.
Dans les dernières années, en termes de mouvements sociaux, moi, les mouvements sociaux, j'ai souvent tendance à dire que c'est un peu la voix des sans-voix ou l'arme des faibles, finalement. Et bon, même si ces forces-là restent relativement faibles, ou en tout cas sur la défensive ou en position de résistance, il y a quand même eu des choses tout à fait exceptionnelles du côté des mouvements sociaux. Je pense à la grève étudiante de 2005, par exemple, qui est considérée comme une des plus grandes grèves étudiantes de l'histoire du Québec. Le sommet des Amériques lui-même a été quelque chose d'extraordinaire. Le mouvement des femmes aussi a réussi à faire des choses assez exceptionnelles en termes, en tout cas, de mobilisation.
Oui, c'est sûr que quand on a le nez collé dessus, c'est peut-être un peu moins évident, mais dans une perspective de chercheur, en fait, il y a vraiment quelque chose là
à creuser. Évidemment, ça a des impacts là où on aimerait, où on espérait que ça en ait dans les décisions politiques ou au niveau... Évidemment, on s'entend là, que toi et moi, que le sommet des Amériques, c'est pas ça qui a fait déraper... les accords de libre-échange?
Non, probablement que les gouvernements du Sud qui voulaient renégocier certains aspects ont plus à voir avec la chose.
Exactement.
Québec en mouvement fait une large place à la gauche radicale, libertaire en particulier, un phénomène qui est habituellement complètement occulté. Bon, je sais que tu as des sympathies très fortes là pour tout ce courant-là, mais en tant qu'universitaire, là, tu crois que c'est un phénomène pertinent dont il faut traiter?
Ben, j'aimerais juste préciser que l'ouvrage, comme tu l'as mentionné, est signé par plusieurs.
Oui.
C'était pas en fait de... J'espère que mes patrons m'entendent pas. On n'était pas de faire strictement un ouvrage universitaire. Je voulais des textes argumentés, des textes de gens qui connaissaient leur sujet, qui défendaient aussi une position. Et donc, pour répondre directement à ta question, oui, je considère... Les libertaires ou les anarchistes sont un sujet d'études tout à fait légitime. Et deux, de toute façon, c'était pas non plus juste ça de prouver au milieu universitaire l'intérêt de cette recherche. C'était tout simplement aussi de dire que politiquement, en termes de signification politique, pour moi, les groupes de sensibilité ou d'inspiration anarchiste sont tout à fait fascinants et intéressants.
Et puis.
Et beaucoup plus, je pourrais dire, beaucoup plus répandu qu'on a tendance à le croire, qu'on. On cherche vraiment simplement ceux qui ont ce que j'appelle le A cerclé tatoué sur le cœur.
Oui.
Il y a des pratiques, il y a des idéaux libertaires qui dépassent les frontières des groupes explicitement identifiés à l'anarchisme.
Après avoir fait une recension de tout ça, bon, comme, encore là, quand on a le nez collé dessus, là, des fois on a l'impression là, que c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est difficile d'avoir de la perspective. Pour toi, c'est quoi la place de ces libertaires ou cette gauche radicale-là, en fait, dans la société, dans les mouvements sociaux? C'est un épiphénomène, c'est marginal ou c'est plus important que ce qu'on pourrait croire?
Moi, je pense que c'est plus important que ce qu'on pourrait croire. Ça commence à... Quand on lit les textes universitaires, il y avait cette fameuse expression qui a été reprise, qui a été popularisée aussi, on disait les nouveaux mouvements sociaux dans les années 60. Les nouveaux mouvements sociaux, c'était le mouvement féministe, c'était les étudiants, la jeunesse radicale, disons, les écologistes, ça a été les gays et lesbiennes. Au-delà de leur revendication propre, leur revendication, on pourrait dire, identitaire, il y avait tout un mode de fonctionnement qui a été bien étudié, bien discuté, qui était de fonctionner de façon délibérative, par assemblée, sans chef, sans représentation, la manière la plus consensuelle possible, de manière horizontale, comme on dit. Et donc ça, c'est la génération passée, mais ces nouveaux mouvements sociaux ne sont plus si nouveaux, mais ils continuent en grande partie à fonctionner comme ça. Moi, c'est tout à fait, ça relève tout à fait de ce que j'appelle le phénomène anarchiste ou le phénomène libertaire. Et donc ça existe. Et puis après ça, il y a les anarchistes, disons, autodéclarés, autoproclamés, qui eux aussi sont actifs sur plusieurs fronts de lutte. Ils sont évidemment dans des groupes explicitement anarchistes, dans des événements explicitement anarchistes. Je peux penser à Montréal, par exemple, au Salon du Livre de Montréal. On les retrouve aussi dans d'autres fronts de lutte, dans le mouvement étudiant, voire dans le mouvement syndical, dans le mouvement des femmes. Ils sont ailleurs aussi, puis ils portent ces valeurs-là également.
Oui, effectivement.
C'est pas nécessairement des. Puis là, on s'entend bien, là, c'est pas nécessairement des stratégies de noyautage. Là. L'idée n'est pas nécessairement de, de, de vendre des cartes de membres du parti anarchiste, là, c'est qu'ils croient aussi à la valeur de ces luttes sur les fronts sur lesquels ils s'engagent, mais ils portent avec elles ou avec eux leur valeur aussi.
Oui, ben, des aspirations, une prégnance qui est un peu plus large. Dans le même ordre d'idée, bon, tu parles des nouveaux mouvements sociaux, il y a aussi toute une sensibilité, puis moi, à ma connaissance, c'est le premier traitement de ce style-là qui utilise ça. Dans le livre, il y a énormément de... Bon, il y a des textes qui sont tout ce qu'il y a de plus descriptif et aussi objectif que possible et tout, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de subjectivité. Est-ce que c'est fréquent, ce type de traitement-là?
Au niveau universitaire?
Oui, au niveau universitaire. Parce, en fait, des études sur des mouvements sociaux, à part là, des trucs qui sortent directement des mouvements, c'est la première fois que je vois autant de subjectivité. Ben, je trouve ça intéressant, puis je me demandais juste si c'est fréquent, finalement.
C'est pas si...
c'est voulu.
Courant que ça, mais par exemple, c'est sûr qu'autour de tout ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste, c'est quand même eu beaucoup de textes qui ont été publiés qui sont sympathiques. Là, je peux penser, par exemple, au texte de Klein. C'est des gens qui ont à la fois le pied dans le mouvement, disons, et le pied dans les médias. Là. Donc, je pense que ça existe quand même. Évidemment, il y a beaucoup de qui se prétendent vraiment objectifs, mais quand on discute avec les chercheurs, souvent, ils ont évidemment un rapport affectif avec leur objet d'étude. Ça peut être dans les deux sens, d'ailleurs, parce que dans l'université, il y a des spécialistes des mouvements sociaux qui travaillent sur, en France, je pense, par exemple, au front, ils travaillent sur le Front National ou sur l'extrême droite. Généralement, ils ont un rapport affectif avec leur sujet, mais là, c'est généralement répulsif. Ils pensent important de le comprendre quand même. C'est pas si les sciences sociales, les sciences humaines, on a toujours on a souvent un complexe d'infériorité par rapport aux sciences pures, puis on essaie justement de jouer la carte de l'objectivité, mais je pense que très généralement les chercheurs ont un rapport affectif quand même. Et évidemment, des fois ils essaient de le cacher ou de le nier. Moi, je voulais que ça soit rendu plus explicite.
En tout cas, ça donne un traitement fort sympathique par ailleurs. Et, je me demandais juste.
Il donne aussi qu'il n'y a pas de consensus dans le livre, c'est-à-dire que dans plusieurs des chapitres, il y a des mises en. On peut être, évidemment, les gens peuvent être sympathiques, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas critiques envers leur propre sujet. Je pense à plusieurs chapitres, là, comme, je pense à celui signé par exemple par Jean-Marc Piot sur les syndicats. Il est très, très pessimiste par rapport aux syndicats, même si c'est un syndicaliste dans l'âme et qui a beaucoup œuvré auprès des syndicats. Je pense au texte de Benoît Lacourcière sur le mouvement étudiant. Ça a été un des acteurs importants du mouvement étudiant. Il le connaît très bien, puis en même temps, il pose des questions critiques au mouvement.
Dis-moi, le Québec en mouvement, là, en gros, on en parle, puis c'est bien. À qui précisément ça s'adresse? C'est pour être diffusé très largement. Qui peut s'intéresser à ça? Dans la mesure où moi, j'ai le nez dedans, fait, donc je trouve ça très intéressant. Toi, t'as le nez dedans, puis t'en fais un objet de recherche, mais est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier quand vous écriviez ça?
Mais dans la mesure où c'est une ouvrage collectif, c'est qu'il y a plusieurs mouvements qui sont présentés. Je pense que des militants, militantes qui sont justement, qui ont le nez dedans, mais le nez dedans dans leur créneau à eux ou à elles, peuvent trouver important d'avoir un portrait, disons, plus général, puis d'aller voir un peu ce qui se passe à côté, avec des gens qui peuvent souvent croiser, mais dont ils connaissent pas nécessairement toutes le type d'implication. Puis évidemment, je pense que c'est un ouvrage, une pub, là, mais je fais une pub, en fait. C'est un ouvrage que je pense qui peut vraiment être inspirant ou être, disons, utile pour des gens, je pense, en sciences sociales, sciences humaines, cégep, baccalauréat, très certainement.
Dis-moi, tu mentionnais, bon, et vous le mentionnez dans le livre directement, qu'il y a des trucs qui auraient mérité plus d'attention. Bon, on peut penser au mouvement pour le droit au logement qui ne s'y retrouve pas, à certains aspects du mouvement communautaire, au comité des sans-emploi. Différents trucs qui ont émergé là dans les 10 dernières années et qui sont pas présents, est-ce que vous prévoyez un tome 2?
Ben, ça serait le fun. L'autre risque aussi, donc, indépendamment de ce dont on parle pas, je pense aussi au mouvement gay et lesbien, par exemple, qui est pas directement abordé là-dedans. Un des autres risques, c'est qu'évidemment, il y a un chapitre par mouvement, disons, ou un chapitre par thématique. Et on sait bien, c'est pour avoir frayé un peu dans ces milieux, qu'il y a toujours plus qu'un point de vue sur un mouvement ou un groupe. Donc ça, évidemment, c'est le risque là, d'avoir une brochette, mais pas assez de nuances ou pas assez de perspectives. Ça pourrait être intéressant de faire un tome 2. Je ne sais pas si ça va voir le jour tout de suite, ou il y a toujours l'idée aussi de faire, en 5, 6, 7 ans, d'en faire un autre, parce que les choses changent aussi.
Ben sur ce, merci bien. T'es rendu à 2-3 livres par saison. Est-ce que tu nous prévois d'autres choses pour bientôt?
Une sabbatique.
Tu prends le sabbatique. C'est bon.
Moi aussi, je voulais le préciser, j'étais heureux que tu m'invites à en parler à ton émission, parce qu'en fait, j'ai réalisé en faisant le livre que du point de vue de Montréal, moi évidemment, je suis montréalo-centriste, et donc on pense tout le temps qu'on est le centre du monde. Pour les mouvements sociaux au Québec, on réalise que, par exemple, en termes de manifestations, les manifestations les plus importantes, elles ont lieu chez vous, quoi.
Ouais, ben c'est...
Manifestations contre la guerre, sommet des Amériques, puis malheureusement, même les manifestations de droite.
C'est l'avantage et l'inconvénient d'être une capitale nationale.
Exactement.
Merci beaucoup, Francis.
Ça fait plaisir.
À la prochaine.
She came from Welling, Garden City. Well, she's moving to my town. She was stone cold drunk, but her lease was pretty and her hair looked neat when she let it hang down. Following her mother's footsteps to make a little cash on the side, investing in a horny cat suit, showing all the boys she is not been too high. She's a Sunday stripper at the bar on the corner. She's a G-string tripper, but I'm in love with her. Get dressed every Sunday morning, got my hair back nice and neat. Take a slow walk down to the court and horses, and I try to find me a front row seat. And as I sit quietly drinking, never have to wait too long. She appears in a spotlight sight, the only thing there is to know. She's a Sunday stripper at the bar on the corner. She's a G-string, a tripper, but I'm in love with her. Makeup, deciding what to wear. I can see her pulling up her stockings, painted nails running through her hair. And as I sit believing, she does it just for me. The others watch, but I don't care. She's mine to rule for all the world to see. She's a Sunday stripper. She's a G-string tripper, but I'm in love with her. She's just a Sunday stripper at the bar on the corner. She's a G-string tripper.
Et on vient entendre le groupe montréalais Blue Beat sur l'album Gangster. Je pense que c'est leur seul un album de cover. Et on vient d'entendre Sunday Stripper, une reprise de Cockspur pour les fans de punk. Ça, ça n'est pas punk, ben ben.
Non, c'était bon.
C'est le fun, hein?
De retour à votre fait sur les ondes de Sequoia, dernier bloc international. En fait, on a reçu un communiqué communiste libertaire sur la crise économique mondiale. La réunion du G20, c'est rare qu'on parle d'économie à l'émission, mais quand même, la crise actuelle est typique de celles qui apparaissent régulièrement dans l'économie capitaliste. La surproduction, la spéculation et les crashs qui s'ensuivent sont inhérents au système. Comme Alexander Berkman et d'autres l'ont fait remarquer, ce que les économistes capitalistes appellent la surproduction est en fait de la sous-consommation. Le capitalisme empêche un grand nombre de personnes de subvenir à leurs besoins, minant ainsi ses propres marchés. La solution à la crise proposée par les capitalistes et les gouvernements demeurera une solution capitaliste. Ce ne sera pas une solution pour la classe populaire. En effet, comme dans toutes les crises, les travailleurs et les travailleuses et les pauvres payent, tandis que le capital financier est renfloué avec des sommes énormes. Il est probable que ça continue. Aucun changement au sein du capitalisme ne peut résoudre les problèmes des classes populaires. Il est plus improbable encore qu'une telle solution vienne de politiciens comme Barack Obama. Tout ce que c'est...
Là-dessus, parlant de crise économique et mondiale, des endroits dans le monde où il y a la pauvreté permanente, l'Afrique, beaucoup de places en Afrique, des régions côtières qui sont lancées royalement dans la piraterie. On a vu ça cette semaine.
Oui, ben en fait, oui, puis t'en parles d'ailleurs sur le blog.
Oui.
Oui, triple, ben, voie de fait avec un X et un S.blogspot.com. Tout ce que les politiciens peuvent faire, c'est de contribuer à offrir un échappatoire aux capitalistes en laissant peut-être quelques miettes à la classe populaire au passage. Le renflouement des banques ne montre pas seulement les intérêts que l'État sert, mais aussi l'hypocrisie de l'attachement des capitalistes au libre marché. À travers l'histoire, les capitalistes se sont accommodés du marché quand il leur convenait et de la régulation étatique et des subventions quand ils en avaient besoin. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, les plans de sauvetage ont pris la forme de nationalisation des institutions financières en détresse avec le soutien total du capital. Cela montre que les capitalistes n'ont aucun problème fondamental avec la propriété d'État et que les nationalisations n'ont rien à voir avec le socialisme.
Mais juste à regarder avec les grosses compagnies automobiles aux États-Unis. 25 milliards récemment, un autre 25 milliards qui s'en vient.
Il y a GM qui aimerait beaucoup se faire racheter.
Ah oui. Ah, j'ai pas assez de liquidité.
Oui, tout ça en fait pourrait être une méthode pour semer le trouble au sein des classes populaires. C'est nous et non l'État qui devons prendre le contrôle de l'économie. Étant donné la mondialisation du capital dans l'ère néolibérale, la classe dirigeante reconnaît que la solution doit être globale. Le G20 s'est réuni le 15 novembre pour discuter de la crise. C'est très significatif. Les dirigeants des États-Unis, de l'Europe et du Japon en viennent à réaliser qu'ils ne peuvent pas faire face à la crise tout seuls, qu'ils ont besoin non seulement les uns des autres, mais aussi d'autres puissances, notamment la Chine, qui émerge en ce moment comme un des principaux producteur industriel mondial et est en passe de devenir la troisième économie mondiale, l'Inde, le Brésil et d'autres économies dites émergentes qui pourront également prendre part aux discussions. Cela pourrait marquer une reconnaissance, en discussion depuis plusieurs années, que le G8 n'est plus le seul décideur de l'économie mondiale. Cela signale peut-être un changement dans la conduite du système économique international. Nous ne plaçons aucun espoir dans l'inclusion de ces nouveaux pouvoirs capitalistes. Les dirigeants chinois peuvent bien prétendre être socialistes. D'autres, comme Lula au Brésil ou Mantlante en Afrique du Sud, peuvent bien se présenter par moments comme les idoles des pauvres. En fait, tous sont des défenseurs du capitalisme, exploiteurs et oppresseurs du peuple de leur propre pays, et de plus en plus exploiteurs impérialistes ou sous-impérialistes des peuples des autres pays. Si on veut que la crise mène à quoi que ce soit d'autre qu'à la défaite complète des classes populaires mondiales, la pauvreté, l'exploitation et la guerre, les classes populaires devront se mobiliser. Il faut exiger des plans de sauvetage, pas pour les capitalistes, mais pour nous autres. En tant que communistes libertaires, nous nous battons pour ceux qui ont acheté des maisons avec des crédits hypothécaires à risque, pour que ces personnes-là donc soient renflouées et puissent garder leur maison. On va continuer de s'engager et de soutenir les luttes pour un travail mieux payé, la réduction du temps de travail, le logement, les services publics, les systèmes de santé, l'aide sociale, l'éducation, la protection de l'environnement, et nous nous battrons pour l'arrêt des guerres impérialistes et pour l'arrêt de la répression contre notre classe et contre ses luttes. Nous présentons ces revendications en réponse à la réunion du G20 et nous continuerons à les revendiquer dans le futur. À travers de telles revendications et tout au long de l'action directive qui permettra de les réaliser, nous travaillerons à construire un mouvement mondial des classes populaires qui puisse conduire à la destruction du capitalisme de l'État et des crises qu'ils engendrent. Donc, les premiers signataires de cet appel sont Alternative Libertaire en France, la Fédération des communistes, des anarcho-communistes d'Italie, le groupe anarchiste communiste de Melbourne en Australie et le front anarcho-communiste Zabalaza en Afrique du Sud. Et oui, ben c'est ce qui met fin à notre à cette édition de Voix de fait. Je m'en voudrais par contre de pas plugger au moins une chose avant de quitter le microphone. Ceux et celles qui seront à Québec samedi 8h30 à la loge au 565 rue Saint-Jean. Il y a Stéphane Robitaille, un troubadour anarchiste que beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices connaissent, je crois. En fait, c'est très intéressant, qui va présenter Chanson à prendre ou à laisser. En fait, c'est ses dernières compositions. Ça risque de vraiment, vraiment, vraiment valoir la peine. Sur ce, c'était Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3. Je suis Phoebus.
Et Farouko qui vous dit demain, ben, jeudi, 14h, rediffusion. Sinon, voix de fait avec un xns.blogspot.com.
Bonne semaine sur nos ondes.
La pauvreté persiste pour la plupart des Yankees. Ils ont du cash pour les JR, mais pas La Maison Blanche complice, signe les arrivants. Les intérêts américains assurés par la dictature. Y'a plein de peuples qui se retrouvent sur des régimes de centre. Leur capitaliste de droite maintenu sur pied. Le monde des affaires dominant, les travailleurs exploités. Supposés défenseurs, la justice et de la liberté. Leur permis de tuer, sans scrupule, toujours censuré. Sans remords, rien qu'en toute forme de résistance. Pour pas inspirer d'autres nations à l'indépendance. Contre le scam, de sale hypocrite. Qui ferait n'importe quoi pour l'argent comme un junkie pour son hit. Rien pour apaiser son abominable appétit. Regarde le reste du monde avec le plus grand des mépris. Dieu, l'honneur, la patrie, la stique, j'ai saï. Si la terre a un nombril, il s'appelle les États-Unis.
Le pays des corps, unis par le sein. Assassinat qui lâche, y'a pas de mandat, y'a pas de teint. Armée, chaudin, les potes qui remplissent le héros. Prêt à tout, pour un autre étoile dans leur drapeau. Le pays des corps, unis par le sein. Assassinat qui lâche, y'a pas de mandat, y'a pas de teint. Armée, chaudin, les potes qui remplissent le héros. Prêt à tout, pour un autre étoile dans leur drapeau.
Mayday, force on va se crasher. Jugement dernier pour une nation menacée. Assis sur le toit du monde, king of the hill. Gardien de la paix sur les territoires hostiles. Ingérence, insouciance, aucune tolérance. CIA,